L'AFJPPNS, l'Association française des journalistes qui passe la pommade à Nicolas Sarkozy, a du souci à se faire. En effet, comment poursuivre leur besogne alors que les voilà obligés d'oindre les 11 autres candidats? Observez désormais pendant les jours qui viennent les grimaces de dégoût et l'embarras des massages du bout des doigts. Vous voulez les voir? Inutile de chercher trop, il y en a partout, sur toutes les chaînes, tous les programmes, toutes les radios. Mais détrompez-vous, ça ne durera pas plus de quelques semaines. Après, tout rentrera dans l'ordre, comme avant, en plus officiel. Car Sarkozy est déjà président, et vous ne le savez pas. Cette élection est un mirage, un jeu dont vous n'êtes pas le héros. Bientôt, tout le monde pommadera Nicolas, et gare à celui qui ne pommadera pas. Il y aura des Guantanamo pour les dissidents.
Jocelyne, près de Lyon, bonjour. Eh bien, je voulais vous dire que ce dimanche 18 mars, le ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabre, a décoré PPDA, le présentateur vedette de TF1, du titre de commandeur dans l'ordre des arts et lettres. Alors, comme dit le canard enchaîné, distribuer quelques breloques aux journalistes à un mois d'une élection présidentielle, c'est toujours bon pour l'info.
Ouais, bonjour. Ce mardi matin, vers 7h15, sur France Inter, il y a un gamin qui fait une école de commerce à Lille qui lui expliquait que pour les licenciements, ben, il faut laisser faire les entreprises et les individus. Alors, ce gosse, il a 20 ans et il a déjà le jargon. Il est conditionné pour les ultralibéraux. C'était Pierre de la Haute-Saône.
Un homme a été engagé autrefois dans la lutte armée. On le soupçonne d'avoir alors tué un représentant de l'État. Longtemps recherché, il a fini par être localisé par la police d'un ministre de l'Intérieur, toujours en quête d'un bon coup médiatique, et ce malgré un réseau de soutien bien organisé. Aujourd'hui, quelques belles âmes s'élèvent pour réclamer sa remise en liberté. On revendique une responsabilité collective, une période difficile traversée par son pays, ponctuée de meurtres, d'attentats, de manipulations en tout genre. Toute raison au nom desquelles cet homme n'aurait pas sa place en prison. Au fait, je parle pas de Cesare Battisti, mais d'Ivan Colonna. Et vous me suivez toujours, là?
Bonsoir, Daniel. Au sujet de Cesare Battisti, comment se fait-il que la France protège des assassins, des dirigeants d'Afrique et de Madagascar? Et que pourquoi les protège? Pourquoi ne poursuit jamais? À bientôt. Au revoir.
Oui, ce premier épisode chinois, Dubaï n'a qu'à bien se tenir, d'après ce que j'ai pu entendre. Et cette madame, charmante madame Onillon, me rappelle étrangement cette expatriée française qui disait des Pakistanais, de tous ces immigrés de Dubaï, ces esclaves, que ces gens-là ne sont bien nulle part. C'est presque la même intonation de voix, c'est presque, et puis c'est surtout le même discours. Alors là, il est question de petit ouvrier avec un mépris, même pas contenu, un mépris explicite. Et c'est, voilà, c'est l'autre Eldorado, libéral finalement à la Chine.
Eh oui, oreille fine, ami AMG, auditeur modeste et génial. On continue? Aujourd'hui, en Chine, effectivement, vous avez raison, vous avez aimé Dubaï, eh bien, vous allez adorer la Chine. La Chine qui va devenir vraiment le paradis ultralibéral, mais alors vraiment à l'échelle du plus grand pays du monde. Bien que il y ait un peu partout des bémols face à cette croissance qui en épate et que beaucoup admirent, ben des bémols qui viennent non seulement des Chinois eux-mêmes à travers les protestations sociales et les manifestations de tous ordres, mais aussi du gouvernement lui-même qui dit où nous avons trop de croissance, il faudra réduire notre croissance. C'est-à-dire que le premier gouvernement au monde qui prêche la décroissance, c'est le gouvernement chinois. Il s'agit de paroles verbales, très probablement, mais enfin, c'est assez surprenant C'est pas la seule chose surprenante dans ce pays dans lequel nous allons à nouveau aujourd'hui, dans la base où j'y suis, faire quelques pas. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut à tous les auditeurs du service public. Je vous appelle avec tous mes camarades de France 3 qui sont aujourd'hui en grève, qui occupent le siège de France Télévisions et qui depuis maintenant quelques semaines luttent contre une direction sourde qui a eu pour consigne du gouvernement de supprimer les moyens de production qui étaient destinés aux régions, c'est-à-dire à produire le programme régional, tous ces documentaires ciselés par des artisans de l'audiovisuel dans toutes les régions qui racontent notre pays sur France 3 le samedi après-midi, mais aussi sur plein d'autres chaînes du câble, parce que c'est aussi France 3 qui fait vivre toute cette infrastructure de petits coproducteurs, de petits producteurs audiovisuels dans les régions. C'est toute la filière production qui menace d'être supprimée, comme a été supprimée la SFP il y a quelques années. Aujourd'hui, on s'attaque à l'audiovisuel public pour en faire cadeau à Monsieur Bolloré, ou peut-être à son concurrent, sait-on jamais, c'est un ami de Monsieur De Villiers. Nous avons une fin de non-recevoir de la part de notre direction qui fait la sourde oreille. On n'a jamais vu un comportement pareil, c'est-à-dire qu'ils font comme s'il ne se passait rien du tout. Voilà, sachez tous que dans France 3, vous n'aurez pas de journaux aujourd'hui sur France 3, nous en sommes désolés, mais c'est pour mieux rebondir et mieux continuer à assurer notre mission de service public. À bientôt.
Je m'appelle Paul, de Grès en Haute-Saône. Alors, à Paris, personne ne sait où c'est la Haute-Saône. Le lycée Cournot, comme c'est pas Henri IV ou Janson de Sailly, même si Albert Jacquard y a été brièvement élève, on connaît pas non plus. C'est un petit lycée dans une province perdue, quelque part entre Dijon, Besançon et Dole. Et c'est un lycée qui meurt à petit feu à force de disparition d'options, de regroupement de classes, de réduction d'horaires et donc de suppression de postes. À la rentrée 2007, là, on va nous en supprimer 5. 5 profs sur 90. Par exemple, les gamins de seconde, ils seront 35 par classe si on nous impose cette dotation horaire globale de misère. Alors, ce vendredi 23 mars, à 10h, à 15h et à 17h, les parents et les profs, ben, on est inquiets, on fera de l'info, on distribuera des pétitions. Alors, si vous pouviez venir nombreux à l'entrée du lycée Cournot, à Grès, en Haute-Saône, là où Albert Jacquard a été élève, eh ben, parce qu'un lycée rural qui meurt, c'est peut-être un Jacquard qu'on assassine.
En France, on a du mal à comprendre.
Il faut le montrer, il faut paraître. Et paraître, c'est très important en Chine.
De toute façon, on perd notre terre, on n'a plus de quoi vivre. De toute façon, on va mourir.
Au contraire, il faut montrer qu'on est riche.
On est toujours pauvre, encore plus pauvre qu'avant, parce que maintenant nous sommes tous séropositifs.
Salut, c'est Daniel Mermel, là-bas si j'y suis avec Guy Ventil. La Chine, un éléphant qui fait du vélo.
Flight number 2. Arriving.
Est-ce que vous avez encore le petit livre rouge de Mao Tse-tung?
Elle demande à sa collègue parce qu'elle n'a pas l'air très sûre. Elle cherche, alors elle bouge des DVD.
Le petit livre rouge, c'était connu ça. Mao Tse-tung, c'est.
Elle
nous sort une autre boîte de.
Des DVD avec un monsieur en costard cravate.
Non, Mao Tse-tung, vous savez le chinois.
Non, il n'y a pas.
Ouais. Pas facile de trouver un petit livre rouge en Chine aujourd'hui. Pas facile du tout, mais au fond, quelle différence entre le bréviaire maoïste de jadis et les livres et DVD en vente dans la librairie de cet aéroport. Des DVD qui vous disent comment réussir, comment s'enrichir. Quelle différence au fond. Mao Tse-tung, c'était demain ce sera bien mieux. Et aujourd'hui, on nous dit demain ce sera bien mieux. On nous le dit et on le dit aux Chinois. Les Chinois y croient-ils? Il semble bien, tout comme ils le croyaient autrefois, sans doute longtemps, au temps du président Mao Tse-tung. C'est en cela qu'il n'y a pas de différence si marquante que ça entre cette période, la période maoïste, et aujourd'hui. On s'étonne, bien sûr, de ce mariage monstrueux entre le capitalisme et le communisme. Mais pourquoi s'en étonner? Est-ce que le capitalisme serait toujours synonyme de démocratie? Pas du tout. Le capitalisme n'a aucun sens, aucune morale, aucune éthique, n'est pas une politique. C'est une énergie folle et qui va là où le profit le mène. Et c'est ainsi que le capitalisme a pu très bien s'allier avec le nazisme, par exemple. N'oublions jamais qu'il y avait une zone industrielle très importante à Auschwitz où certains, parmi ceux et celles qui arrivaient, eh bien, étaient dirigés s'ils étaient jugés aptes à travailler dans la zone industrielle. Le capitalisme s'adapte et s'adapte parfaitement à ce régime communiste, entre guillemets, chinois, c'est-à-dire dans son aspect autoritaire, structuré, on dira, et pour tout dire, pour certains, totalitaire. Donc il n'y a pas une telle différence entre ces deux perspectives, en tout cas, pour la majorité des Chinois. Pour la majorité, mais peut-être pas pour la totalité. Car je le disais, les protestations se multiplient à travers le pays, à l'intérieur du pays. Ce ne sont plus seulement des dissidents réfugiés aux États-Unis ou en France ou à Hong Kong qui protestent. La protestation est importante sur le terrain, un peu partout, sur Internet. Il faudra bien que, un jour ou l'autre, le gouvernement chinois lâche du lest. En lâchera-t-il à l'occasion des Jeux Olympiques d'août 2008? C'est ce qu'espèrent beaucoup de Chinois. Nombreux seront les journalistes qui viendront à ce moment-là dans l'Empire du Milieu, et d'ores et déjà les autorités ont promis d'être plus laxistes, plus ouverts à ces journalistes qui pourront voyager comme ils le souhaiteront, y compris, a-t-on promis, au Tibet. Alors, une ouverture, une entrouverture, c'est aussi la panique des dirigeants chinois aujourd'hui qui se souviennent de l'exemple de la Pologne, de la RDA, d'autrefois qui, on se souvient de la chute du mur, on se souvient de l'exemple de l'URSS. Et ça, c'est la hantise. Donc, comment ouvrir sans ouvrir tout en ouvrant? Comment rester au pouvoir? C'est ça la hantise de la classe et de la caste qui est au pouvoir. C'est comment s'y maintenir. Voilà dans quel pays nous promenons. Et nous promenons nos micros aujourd'hui jusqu'à 16h. Dans la basse, j'y suis. La Chine, un éléphant qui fait du vélo.
Qu'est-ce qu'il dit, Yang Yang?
Comment faire bien fonctionner une société, une compagnie d'affaires?
Il y a la petite dame en exécutif qui lui pose des questions.
Oui, on fait ça, c'est un programme à la télé.
Ah, c'est le DVD qui est en...
Les discours, il est donne.
Là, on est à l'aéroport de Pékin. Dans la partie des vols domestiques, et ça c'est une librairie. Et ce qu'on voit là devant nous sur cet écran, c'est un gars qui est en train de faire la promotion de son livre, donc qui s'appelle La roue qui vole. On va l'appeler comme ça, La roue qui vole. Et ce gars est en train d'expliquer comment on réussit dans les affaires, comment on réussit dans le business, comment il faut s'y prendre, quels sont les bons principes, comment faire. Et ce qui est formidable, c'est que les journalistes n'ont plus besoin d'interviewer déjà les gens comme ça. Ils le font eux-mêmes. Ils regardent directement la caméra et ils expliquent comment on réussit dans les affaires, dans le business. Ah, c'est la roue qui tourne. Voilà, c'est le sigle de son système et de son livre. Voilà, le nouveau petit livre rouge. Ici, c'est des livres de management. Et dans les librairies, on vend d'abord des livres de management. Partout, c'est des livres de management. Et ce gars-là explique comment réussir.
Comment vous aussi, vous pouvez devenir riche?
Mais bien sûr, enrichissez-vous. Vraiment bien fait. Hein. On se demande après comment ils réussissent, les Chinois. Ben, c'est ça, la réussite.
Bon, faut y aller, je crois.
Bon, allez, on va y va.
Merci.
Merci. Bonne réussite.
Hein?
Bonne réussite.
Et juste en face, t'as vu, t'as la boutique BMW Lifestyle. Le mode de vie BMW.
Ouais, le vélo BMW. Alors là, on est au pied de ce qui va être l'endroit, le lieu... On peut dire l'objet le plus photographié au monde en août 2008. C'est le grand stade de Pékin pour les Jeux Olympiques. Et qu'est-ce que c'est ce grand stade? C'est un nid d'hirondelles. C'est absolument magnifique, là c'est en cours. De travaux, les gars sont au boulot. Ouais, vous les étrangers, vous trouvez ça certainement super, mais bon, moi, ça fait tellement longtemps que je suis là, j'ai l'habitude de le voir.
Est-ce que tu vas essayer d'assister à certaines épreuves?
Le
problème c'est qu'en 2008, nous, les Mingong, les gens qui viennent de l'extérieur de Pékin, on ne pourra pas rester ici, à Pékin.
Et si c'est pas indiscret, combien on gagne comme chauffeur de camion de chantier comme ça?
2000 quoi,
à peu près. 2000 quoi par mois? 200 euros.
Poudoua. Ah, c'est pas assez. C'est tellement peu, tellement peu.
Mais pour combien d'heures de travail?
Des fois, je travaille toute la journée du matin jusqu'à la nuit. À partir de 5 heures du matin. Jusqu'à 10 heures le soir. Il n'y a pas de jour de repos.
Et si t'es malade, t'as une sécurité sociale, t'as quelque chose?
Non, il n'y a pas tout ça. Moi, j'ai pas droit à tout ça.
A world, a dream, un monde, un rêve. Tel sera le slogan de ces Jeux Olympiques de 2008 à Pékin. A world, a dream, qui incarne de façon concentrée l'essence de l'esprit de la valeur universelle olympique, à savoir l'unité, l'amitié, le progrès, l'harmonie, la participation et le rêve. Eh bien, ce rêve, ils sont 1 million à le préparer. 1 million de travailleurs qui sont en train de construire le site olympique, qui ont d'ailleurs bientôt fini, puisque, je l'ai indiqué hier, la Chine s'apprête à finir avant les délais pour montrer sa puissance, sa force et son rêve qui est de devenir la
première puissance du monde. C'est ce que l'on suppose. On dit aux Chinois, n'est-ce pas que vous voulez devenir la première puissance du monde, alors que pour l'instant vous n'êtes que la quatrième. Et les Chinois disent, oui, d'accord. Bon, si vous pensez que c'est ça que nous voulons, eh bien c'est ce que nous voulons. C'est pas si sûr qu'ils le veuillent véritablement. En tout cas, c'est assez étonnant quand même ce que dit le Premier ministre Wen Jiabao concernant la croissance. Il y a eu quatre dernières années d'une croissance à deux chiffres, ce qui fait l'admiration de tous nos ultralibéraux à nous, qui disent, voilà, c'est formidable, fascinant, la Chine, etc. Sauf, dit ce Premier ministre, disent les gouvernements chinois, sauf que, bien, cette croissance, c'est bien, mais il faudrait réduire. Il faudrait réduire parce que, 20 années d'ouverture économique ont créé de nouveaux problèmes. Ça en a réglé quelques-uns, mais ça en a créé pas mal. Et notamment le chômage. 85 millions de chômeurs dans les villes, 100 millions dans les campagnes, 1 400 000 diplômés sans issue professionnelle, et en 20 ans d'ouverture, 10% de la population a accumulé 40% de la richesse nationale de ce pays le plus égalitaire du monde. Au temps du maoïsme, eh bien, on est passé au pays le plus inégalitaire du monde. Les inégalités en Chine dépassent celles des pays capitalistes comme la France et les États-Unis. 800 millions de paysans en Chine n'ont aucun accès aux soins médicaux. Je répète, 800 millions de paysans n'ont pas accès aux soins médicaux parce que, tout simplement, c'est trop cher. Alors évidemment, dans ces conditions, les tensions sociales s'exacerbent. Jusqu'où ça peut tenir cet étirement, cet étirement du corps social entre les plus modestes, les Mingong avec qui nous nous trouvons, ces travailleurs migrants, ne sont pas les plus pauvres. Ils s'en foutent beaucoup. Ils ont fui la pauvreté de leur province, la pauvreté du monde rural dont ils sont issus, et donc ça va déjà un petit peu moins mal lorsqu'ils gagnent $1 ou $2 par jour. Mais on va essayer de faire un trajet aujourd'hui jusqu'à 16h. On va essayer de grimper cette échelle sociale chinoise à travers l'exemple de ces Mingong qui travaillent sur ce chantier olympique. Et puis on ira avec des gens issus de la classe moyenne, voilà, on va pas dire moyenne supérieure, vous verrez, on ira jouer au golf, pas mal hein, quand même d'aller jouer au golf en Chine, je sais pas si les maoïstes d'il y a 40 ans auraient pu imaginer une chose pareille, et puis, alors là ils ont encore moins imaginé, on va se retrouver avec Guy Vanctil dans un magnifique château à côté de Pékin, on y a fait quelques pas déjà hier, et qui montreront bien et de près les liens qu'il y a entre cet immense pays et le nôtre. Mais d'abord, admirons ce site olympique avec nos amis Mingong. Voilà.
Voilà, vivent nos copains. Tiens, regarde ça. Hello.
Ah, ils sont tous là. Bonjour.
Bonjour, Mira.
Ah, barraque des Mingong. Ça, c'est le palais. Voilà où vivent les gars. Eh ben dis donc. C'est vraiment le bidonville, quoi.
T'as vu dans des vapeurs de peinture.
Ils sont combien là-dedans? Oh la vache. Une douzaine.
Toi là. Asseyez-vous.
Qu'est-ce que tu fais à manger là?
Du riz, des pâtes.
Du riz, des pâtes. Vous mangez de la viande?
Ouais, il y a de la viande, c'est ça. Si on n'avait pas de viande avec tout ce qu'on bosse. Ouais, la nourriture, ça va. Ouais, le reste, en dehors de la nourriture, c'est moyen.
Ouais.
Moyen.
Combien d'heures vous travaillez, vous, par semaine?
Nous, les Mingong, maintenant. En général, c'est 9 heures par jour.
Combien de jours par semaine?
Ouais, tous les jours de la semaine.
Mingong, c'est pas de
Les Mingong n'ont pas de jours de repos. Ça n'existe pas pour les Mingong.
Et quels sont les salaires? Quels sont les salaires des gars ici?
Pas très élevé les salaires.
C'est-à-dire?
50 yuan
par jour.
Il tient. 50 par jour. 5 euros par jour. 5 euros par jour.
Il y a une télé, regardez la télé. Petit écran minuscule qui est sur une batterie.
Au bout d'un fil. Et encore, là, il ne fait pas très froid aujourd'hui, mais à Pékin, ça peut vraiment descendre.
Il stocke les matériaux de construction ici. Ça sert à la fois de dortoir et de... Ah, et nous ici, les conditions de vie, c'est certainement beaucoup moins facile que chez vous.
Ah ça c'est sûr. C'est un bide en ville. Hein.
Chantier, ça avant, non?
Ouais.
Vous le connaissez par cœur?
Oui. Ça s'appelle en nom chinois, ça s'appelle Chardiaban. Enfin, tout le monde le connaît. Un des 8 opéras révolutionnaires.
Opéra révolutionnaire, ça veut dire opéra qui était toléré ou accepté?
Ouais, c'est une histoire, surtout contre. On raconte la révolution, enfin, la guerre contre les Japonais.
Ah, voilà, ouais. Donc il y avait forcément un arrière-fond politique, quoi.
Ouais, enfin, patriotique.
Le peuple en lutte contre l'envahisseur.
Ouais. Alors cette voix délicieuse, eh bien, nous l'écoutons sur le lecteur de notre ami Chen, avec qui on va passer un petit instant dans son cossu 4x4. Nous roulons, nous sortons de Pékin. Et Chen, qui est aujourd'hui facilitateur, il est facilitateur entre des intérêts français du nord de la France, c'est-à-dire c'est quoi des intérêts français? Eh bien, ce sont des investisseurs ou des entreprises qui se délocalisent en Chine et que Chen aide à prendre des contacts en Chine. Si vous êtes au chômage ou si vous avez tout perdu, ami du Pas-de-Calais, bah, sachez que c'est peut-être par notre ami Chen que les choses se sont faites quant à la délocalisation de votre entreprise. Chen est un type tout à fait souriant, comme vous l'avez compris. Il a été garde rouge, il est de cette génération, la génération de la révolution culturelle. Il faut rappeler que en mai 1966 était lancée la grande révolution culturelle prolétarienne. Elle durera jusqu'en 1969. Elle s'appuiera sur les fameux gardes rouges chargés de mener la révolution, de s'affranchir des contraintes anciennes comme la famille, l'école, etc., de détruire les bourgeois et surtout les droitiers du parti communiste. En janvier 1968, l'armée reprend la main et Mao Zedong fait envoyer entre 16 et 20 millions de jeunes intellectuels à la campagne afin de les rééduquer. Cette révolution culturelle n'a pas laissé que de bons souvenirs dans l'esprit, dans la mémoire des Chinois. On estime le nombre de victimes à environ 1 million, beaucoup moins que le grand bond en avant, 30 millions de morts dus à la famine. Mais voilà, on va passer un instant avec Chen et ses amis pour essayer de comprendre comment tout cela peut cohabiter dans un même esprit, dans un même monde, dans une même mémoire, et comment ça s'emboîte tout ça, comment ça se mélange, disons. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va jouer au golf. Voilà, le golf, on sait ce que c'est que le golf, la distinction, l'ostentation. Pourquoi est-ce qu'on n'y jouerait pas en Chine?
Mais très très sérieux. Oh là 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 là, regarde les clubs qu'ils ont dans des housses et tout, hein. C'est impressionnant, hein.
Ça c'est, on appelle en anglais, c'est le driver. Ouais, c'est pour démarrer, c'est uniquement pour le premier coup.
Et ça fait longtemps que les Chinois jouent au golf?
Ouais, plus de, je dirais, plus de 20 ans.
Et ici c'est immense ce terrain là.
Ouais, le nom du golf s'appelle Oriental Université CT Golf Course.
Tiens, qui vient jouer ici?
Il y a toutes sortes de gens. Il y a toutes sortes de gens, des entrepreneurs par exemple, des sociétés, des privés. Il y a aussi beaucoup de gens qui font des commerces, businessmen, ouais, qui travaillent aussi en jouant.
Mais vous nous disiez que l'inscription c'est sérieux. Ouais, vous nous disiez que c'est 30 000 euros pour être membre.
Ouais.
Mais là, à chaque fois que vous venez jouer, vous repayez encore un coup.
Ouais, ouais.
Ah oui, c'est quand même un sport cher. Plus le matériel.
Disons c'est cher, oui ou non, parce que oui c'est cher, apparemment c'est cher, mais il y a la plupart des gens qui considèrent que c'est aussi comme un investissement en fait.
Un investissement?
Un investissement, parce que pour le membre, la carte du membre, là, vous pouvez revendre après.
Plus cher?
Oui, plus cher, oui, si la course marche bien. C'est tout le monde espéré, parce que chaque course est limité par le nombre des membres qu'il pourrait accepter.
Mais là, en arrivant sur la petite route qui arrive ici, on voit des gens qui revendent des balles.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des balles qui sortent du truc.
Ouais, mais c'est normal qu'on perde des balles.
C'est ça. Et là, il y a des petites gens pour.
Ouais,
pour
les gens à côté qui viennent ici, ou qui travaillent ici pour l'herbe, par exemple, qui ramassent de temps en temps et ils revendent. Mais c'est une raison pour tout le monde, parce que de toute façon, c'est pas très cher. Et en plus, pour les amateurs, oui, on n'est pas des professionnels. Donc.
Eux, ils récupèrent les miettes, quoi.
Ouais.
Et il y a votre ami, il n'a qu'à temps pour faire
son. Il faut commencer, là. Je pensais jamais que j'allais rencontrer des gardes rouges dans ma vie. Et les voir d'aussi près, quand même, ça fait drôle, hein. Surtout que maintenant, les gardes rouges ont réussi dans la vie. Là, on est dans un golf, un grand club de golf. Et nos amis sont des hommes d'affaires. On vient de les suivre au cours de leur parcours de golf. Et puis là, on vient de bien déjeuner. Mais en tous les cas, ce qu'on est en train de se dire, c'est que vous avez vécu quand même un basculement extraordinaire dans votre vie. Vous qui êtes né au début des années 60, vous êtes passé de l'époque de Mao Tse-tung à aujourd'hui l'époque du capitalisme triomphant en Chine. Alors, racontez-moi tous les trois comment vous êtes devenus gardes rouges. Qu'est-ce que c'était des gardes rouges?
À l'époque, c'était obligatoire, entre guillemets. Ceux qui se comportent bien à l'école, ceux qui ont une bonne note d'études, des cours. Et là, c'était élu. C'était élu par la classe ou par l'école. C'est pas n'importe qui veut devenir garde rouge. C'est le meilleur élève qui avait le droit d'être gardien rouge.
Toi donc, t'es devenu garde rouge?
Ouais.
Et fier?
Oui, à l'époque, on était fier.
Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire quand on était garde rouge?
Mais il faut se comporter mieux que les autres. Quand il y a des difficultés, il faut aider les autres, par exemple. Il faut être toujours le meilleur de la classe ou de l'école.
C'est un uniforme? Il y avait un uniforme, Chen?
Non, il n'y avait pas d'uniforme. À l'époque, c'est un foulard rouge, ouais.
un foulard rouge. Et ça, c'était la fierté quand tu es rentré avec le foulard rouge à la maison.
Oui, bien sûr.
Et toi ?
Je pas seulement suis dans le Hong Xiao Bing. 那么少先队的系的红领巾，当时的我还是鼓号队的敲队鼓，在天安门人民英雄纪念碑前举行的仪式。
Là, il se rappelle bien, première fois, quand il met ça, c'était à la grande place Tiananmen, devant le monument des héros du peuple. Et en plus, il a été fait parmi d'une équipe de musique, enfin, de musiciens, qui est avec les blond, blond, blond. Donc, il sera, ouais, il dit ça.
Dong, da, la, dong, da, la, dong, da, la, dong, da, la, dong, dong, da, la, da, la, dong.
Dis donc.
C'était une cérémonie, en fait, pour, d'être nommé comme gardien rouge.
Et évidemment, il y avait une chanson, il y avait un chant.
歌词记不住了。
歌词是paroles。
On s'en souvient plus, enfin.
Tu
ne
te souviens plus des paroles?
Ça revient dedans.
Ça revient peu à peu.
Nous sommes les hommes de fer du communisme, c'est ça?
Ou bien on est les successeurs des communistes?
Alors, je pense que ça fait pas rire tout le monde, ceux qui ont connu cette période. Il y en a quand même quelques-uns en France. Et puis, beaucoup de Chinois n'ont pas forcément un souvenir aussi, comment on va dire, complaisant, nostalgique sur cette période. Est-ce que cette période nous renvoie évidemment au temps du maoïsme? On a eu des maoïstes en France dans les années 60, 70, pas seulement en France d'ailleurs, qui vivaient dans une admiration aveugle de ce qui se passait en Chine. Un aveuglement absolument incompréhensible, déjà à l'époque, mais surtout aujourd'hui, quelque chose d'absolument consternant. Est-ce que ceux qui admirent le nouveau grand bond en avant, celui d'aujourd'hui, seront aussi incompréhensibles et apparaîtront comme aussi consternants dans 30 ou 40 ans. Entre nous, c'est ce que je souhaite.
Mais est-ce que vous vous souvenez du moment où l'histoire a basculé en Chine ?
C'est l'époque des réformes, le début des réformes, bien sûr qu'on s'en souvient. Oui, en 78, on s'en souvient. Oui, tout le monde a compris que c'était pour que les gens s'enrichissent, pour que les gens prennent la voie de l'enrichissement.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez quelque chose dans cette époque-là ? Là, on est en plein boom économique, la Chine, le miracle économique, le bouleversement incroyable. Jamais dans l'histoire, un pays a connu un bouleversement aussi fondamental que ce que le connaît la Chine. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous adhérez ou ça vous fait peur un peu, ça, vu de l'intérieur Chine ?
Mon sentiment, moi je dirais, c'est là, c'est une période, qu'on dit, c'est un passage obligatoire, d'après moi. Bien sûr, on a fait des erreurs, comme tous les autres dans d'autres pays, au cours de ce développement, dont l'exemple et le souci aujourd'hui, je dirais, c'est l'écart entre les villes et les campagnes. Il y a aussi l'écart entre les gens. Là, on le regrette un peu.
Je pense que 就是说只要有钱了那这个人就是成功了。
Ouais, le seul critère de la réussite aujourd'hui, c'est de gagner de l'argent et tout le monde déploie son énergie dans cet objectif.
En fait, ce que je regrette un peu, c'est qu'on juge aujourd'hui n'importe quelle affaire ou n'importe quelle personne, on juge d'abord par ses fonds, par ses capitaux, est-ce qu'elle a gagné de l'argent, est-ce qu'il est suffisamment riche. Et pour quelqu'un qui a de l'argent, on le considère comme quelqu'un qui a réussi. C'est ça qui est un peu dommage. Bien sûr, on est tous contents. Pourquoi pas d'être riche ou bien d'avoir l'argent. Mais c'est pas ça qui compte uniquement dans la vie ou bien dans une société.
就是说大家就是有一种就是丧失了一种信仰，就是说在毛泽东的时代呢，甭管这个是正确的还是不正确的，至少大家我们都在信仰共产主义。
Même si on sait maintenant que la politique à l'époque de Mao faisait plein d'erreurs, mais au moins à l'époque tout le monde espérait en quelque chose, tout le monde avait un objectif, c'était le communisme. On y croyait.
On était tous les croyants du communisme.
就是大家丧失了这个信仰之后呢，就是说造成的一个结果，就是为了赚钱不择手段，于是犯罪、贪污、腐败，现在就比较严重。
Oui, c'est à partir du moment où cet idéal a disparu, eh bien, les gens ont commencé à vouloir gagner de l'argent par tous les moyens et ça a engendré corruption, crime, etc.
Alors, redites-moi, le château Lafitte au fond.
Ça, c'était sa première visite en juillet 2001.
Donc c'est un château, un beau château de trois étages.
Voilà, le vrai château Lafitte, de Maison Lafitte, avec les dimensions respectées. Et lors d'une deuxième visite, il a visité le château de Fontainebleau. Et lorsqu'il était dans la cour de Fontainebleau, il a fait exactement comme lors de son premier voyage. Il était silencieux, il a regardé à droite, il a regardé à gauche. Et j'ai précisé à son architecte qui était avec lui, je lui ai dit, tu vas voir, quand tu vas rentrer à Pékin, on va te demander de faire deux pavillons. Il a haussé les épaules en me disant, non, c'est pas possible. Et aujourd'hui, on a deux pavillons de chaque côté du château. En fait, on a trois châteaux.
Derrière, il y a le jardin.
Derrière, il y a le jardin qui s'est inspiré de Vaux-le-Vicomte. Et puis le troisième voyage, comme il faut bien en Chine fermer dans la tradition chinoise les cours carrées, il a fermé la cour par des colonnades lors de sa visite à Rome.
Et ça donc, ça c'est Saint-Pierre de Rome, ça c'est des colonnades. Saint-Pierre de Rome,
exactement. Moi au départ j'étais bien évidemment contre cette colonnade, parce que c'était un petit peu choquant pour moi. Et puis en fait, une fois que c'est fait, c'est là que vous vous apercevez que c'est un vrai bâtisseur, parce que c'est extrêmement cohérent.
Ça ne choque pas du tout.
Quand vous êtes là, vous dites, ah oui.
Il a sa carte du Parti communiste chinois.
Oui, oui, bien évidemment.
C'est un truc inimaginable pour nous, quand même. Un châtelain communiste.
Pourtant, c'en est un. Donc, il est obligé de respecter un certain encadrement. On a le sentiment qu'il n'y a pas d'interdit et que tout est possible. Alors, bien évidemment, c'est mon regard. Le cadre est là, c'est clair. Et heureusement d'ailleurs qu'il est là, c'est ce qui fait que la Chine aujourd'hui avance dans sa folie, mais dans une folie encadrée.
Le cadre, c'est-à-dire, voilà, le pays est tenu.
Oui, le pays est tenu, absolument. Mmh. Et chacun est à sa place, et chacun respecte sa place.
Eh oui, une folie encadrée, c'est ça qui est très très important pour le business, pour les investisseurs, pour le libéralisme, c'est la stabilité. Et quoi de mieux pour la stabilité qu'un régime fort, non démocratique, policier, et qui contrôle tout. C'est très bien. Quant à la surprise de voir un châtelain aussi riche que celui chez qui nous nous trouvons, dont nous sommes les hôtes, et qui soit au Parti communiste également, c'est un peu surprenant, même si nous eûmes jadis chez nous, en France, certains milliardaires rouges. Mais c'était des exceptions. Là, c'est une généralité. Appartenir au pouvoir, à la bonne société, à la haute société, suppose évidemment d'appartenir au Parti communiste chinois et eh bien de réussir, puisque le Parti communiste l'avait dit, s'enrichir est glorieux. Eh bien, Monsieur Wang, chez qui nous sommes, Madame et Monsieur Zhang, chez qui nous sommes, présentés et accompagnés par Madame Onillon, font partie de cette élite et nous sommes chez eux.
Voilà, c'est dans un salon avec des chandeliers sur les côtés. Voilà les dames qui s'occupent de mettre la table pour une réception de ce soir. Et c'est rigolo parce que c'est vrai que de l'autre côté, là, on voit la grande vue sur le jardin avec la fontaine qui, hiver oblige, ne fonctionne pas. Mais on voit des chantiers en cours derrière les arbres là-bas, d'autres constructions, d'autres résidences qui sont avec des maisons de luxe de style plus anglais, là, je trouve, en briques rouges avec des toitures.
Oui. C'est un nouveau quartier des villas de style européen.
Européen?
On va construire 200 à 500 villas. Qui s'appelle Eastern Province.
Alors, Yang, comment tu trouves?
Incroyable, hallucinant, terrible.
Terrible, c'est le bon mot, je crois.
Vous avez une superficie à peu près de combien?
24
000 mètres carrés.
Alors, est-ce que tout ça fait des jaloux?
Ici, non. Au contraire, il faut montrer qu'on est riche. Ça donne une supériorité sur les autres. Ça veut dire qu'on a réussi. Et on se fait respecter.
Voilà, c'est pas vivons heureux, vivons cachés.
Pas du tout, pas du tout. Il faut le montrer, il faut paraître. Et paraître, c'est très important en Chine.
Ouais.
Donc, on achète une très belle voiture, même si on n'a pas de l'essence à mettre dedans, c'est pas grave. Hein, on la laisse au garage, mais on ouvre la porte du garage et on montre. C'est vrai que partager 5 ans ou 6 ans de ma vie sur ce projet... Avec ce coup, ça a été formidable. Et être surtout le témoin de ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Ça, je trouve que c'est un grand privilège. Qu'est-ce qui se passe? Tout est possible en Chine, de créer, d'inventer et de réaliser surtout, sans peur. Enfin, sans peur comme nous les avons, nous, en France, parce qu'on est très timide quand on a envie de se lancer dans une entreprise. Ici, non. Vous voyez, aujourd'hui un petit ouvrier, demain il sera le milliardaire. Et ça en espace de quelques mois. Ça c'est possible en Chine. Cette ouverture vers...
L'argent coule à flot.
Oui, effectivement il y a beaucoup d'argent. Le gouvernement chinois demande à ce qu'il reste à l'intérieur et que ça se développe à l'intérieur et qu'on consomme à l'intérieur. Donc ça se voit. Ça se voit dans notre quotidien tous les jours. Dans les restaurants, dans les développements de boutiques. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de boutiques de luxe qui se créent à Pékin. Et les Chinois sont consommateurs, donc ils ont raison.
Et Ferrari a un problème avec ses listes d'attente pour la fourniture des derniers modèles.
Ferrari, Rolls, je crois qu'il faut attendre 2 ans pour avoir une Rolls.
C'est d'être agent, ça.
Surtout quand on a beaucoup d'argent et qu'on peut payer tout de suite. Parce que dans la demande chinoise, c'est dans l'instant. Je veux. C'est tout de suite. Je peux payer, je veux. On aime montrer, on aime dire qu'on a réussi et il faut le montrer.
C'est ça, c'est
important de le montrer.
On achète sa culture, en fait.
Bien sûr. Il ne faut pas oublier que les années du communisme ont fait quand même beaucoup, beaucoup de mal à toute cette génération, la génération de Madame Chang. Donc, ils ont besoin de se réapproprier ce qu'ils ont perdu pendant un certain nombre d'années.
Oui, ils ont été dans les périodes où ils étaient garde rouge.
Oui.
Ils ont été dans cette période-là, le grand bond en avant.
Exactement. Donc, c'est le produit typique de la Chine d'aujourd'hui. Mmh. Et qui a envie, en plus d'effacer cette période, qui est une période très, 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 très douloureuse pour eux. Ils en parlent très peu, et je sais qu'ils ont terriblement souffert. Surtout le couple, s'ils ont été envoyés dans le nord-est de la Chine, où il fait moins 50. Et à moins 50, quoi, vous êtes en train de tailler des cailloux, c'est un peu douloureux.
Ils sont déjà passés de Mao à Rothschild, sans passer par la case au milieu, quoi.
Ils ont fait partie de cette génération de Chinois qui souhaitaient créer leur propre société privée et de s'enrichir, puisque c'était le but. Il a été un des premiers, dans les années 90, à construire des maisons individuelles en banlieue de Pékin. Mais entre 90 et 2000, il s'est construit autour de Pékin et autour de chez lui un certain nombre de lotissements. Donc il a voulu faire mieux que les autres, encore plus prestigieux. Et il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire de mieux que les autres? Donc il est venu l'idée de construire un château. Je dis souvent, il a construit la cerise et après il fait le gâteau. Donc aujourd'hui, il est en train de construire 500 jolies villas autour du château. Il est en train de faire un spa avec 350 chambres supplémentaires.
Ça ne s'arrête jamais.
Ça ne s'arrête jamais, exactement. C'est un bâtisseur, hein, donc il a cette frénésie. Et puis, il s'est laissé complètement emporter par son enthousiasme français, cette appropriation de notre culture. Il dit que la France, c'est beau, c'est de l'art pur.
Et vous êtes une des chevilles ouvrières. Vous êtes celle qui l'initie, en fait.
Je suis une passerelle entre les deux cultures. J'essaie effectivement de lui apprendre, parce que c'est difficile de dire cela, mais de lui faire comprendre notre culture pour qu'il se l'approprie au plus juste.
Oui, et puis il y a la justesse du goût aussi.
Exactement. Donc, c'est parfois difficile. On a des combats douloureux, mais on y arrive de temps en temps, de temps en temps. Ah, j'ai eu une période difficile tout à fait au début des travaux où il m'a montré les matériaux qu'il souhaitait utiliser, entre autres pour la toiture ou pour la pierre, et j'étais un peu catastrophée. Donc j'ai passé une nuit blanche et le lendemain matin j'avais une très grande réunion avec tout son personnel et leur essayer de faire comprendre qu'un château ça se construisait pas avec des crépis et des ardoises en plastique. J'avais pas envie de refaire Disneyland.
Merci à Madame Onion qui effectivement a sauvé le bon goût français en Chine auprès de Monsieur et Madame Chang, que nous remercions également. Merci à Stéphanie Olivier, à Chen et à ses amis garde rouge et golfeurs, traducteur Luc Richard, traductrice Yang Yang, Ali Goodbye Mao de Frédéric Bobin aux éditions La Martinière, et le livre de Pierre Aski, correspondant de Libération, 5 ans en Chine aux éditions Les Arènes. Et puis ce soir, à 20h40, France 5 diffusera le documentaire de Jean-Yves Cochard et Mathias Lavergue, Made in China, qui donne à voir l'envers du miracle économique chinois. Je pense qu'à bien des égards, ce qui sera montré ce soir ressemblera assez à ce que vous entendrez aussi dans la bâche si j'y suis. Nous vous signalons également que demain, mercredi 21 mars à 10h, il y aura un rassemblement devant l'ambassade du Kenya pour protester contre l'inculpation des membres du Parlement du Peuple, le mouvement civil kenyan que nous avions rencontré lors du reportage d'Antoine Chao sur le forum social de Nairobi. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission La Basse, j'y suis, où vous pouvez réécouter l'émission du jour, que vous pouvez également réécouter sur labas.org, la-bas.org, ainsi que beaucoup d'autres émissions de La Basse, j'y suis. À la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny et Henri Bérec. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, montée par Raphaël Moutarde, assistée de Charlotte Perry, et Christophe Imbert s'occupe du répondeur et attend vos messages au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.